Chapitre dixième, dans lequel le lecteur, assoiffé de belles relations, ne sera pas long à éprouver un vif dépit en constatant que ce fameux duc de Richelieu, qu'on lui annonce à grande pompe, n'est qu'un vulgaire roturier remplissant les plus basses fonctions, si j'ose employer cette audacieuse métaphore, de l'échelle sociale. Et la lutte sournoise commença dans les ténèbres de la cloche de bois, sous l'œil pacifique du duc de Richelieu, spécialement chargé de cirer les bottes et d'errer ainsi sur les marches de l'escalier et le long des tapis rongés qui ornent le palier. Ce duc de Richelieu était l'œil de l'autel et le véritable témoin du duel qui s'y engageait entre la robuste vertu française et l'entreprenant vice hollandais. Mais il en avait tant et tant vu dans sa vie claustrale de garçon d'hôtel que la plus prodigieuse inconscience était peu à peu substituée en lui à cette morale dont les éducateurs de l'enfance s'efforcent d'infuser les principes délicats dans l'âme des écoliers primaires. Pardon si j'interromps brusquement ce récit. Plusieurs lecteurs, dont un notable lot de lectrices, semblent s'étonner qu'un personnage répondant au nom et titre de duc de Richelieu ait pu se résigner à accomplir les modestes fonctions de garçon dans l'humble hôtel de la rue de Cloche-de-Bois. Cela se saurait, semble-t-on dire. Une courte explication s'impose en effet. Notre garçon de l'hôtel de la Cloche de Bois ne porte pas à vrai dire le nom par lequel je viens de le désigner, de même qu'il n'a aucun droit au glorieux titre de duc. Ressemblant en cela à ses ascendants de la branche mâle, il s'appelle Dubois. Et de ce simple Dubois, trop simple au gré de certains locataires facétieux et inoccupés, on eut vite fait Cardinal Dubois. « Cardinal Dubois, vous me réveillerez de bonne heure demain matin à 6h30. » D'autres locataires, également facétieux, mais plus occupés, jugèrent que Cardinal Dubois, c'était bien long et bien encombrant pour un escalier aussi étroit. Ils se contentèrent donc d'appeler notre homme Cardinal tout court. « Cardinal, mon café au lait, vite !» Ne se tenant pas pour battu, le clan des locataires facétieux et inoccupés compléta ce sec cardinal du nom d'un prélat bien connu, M. de Richelieu. « Cardinal de Richelieu, c'est comme ça que vous me cirez mes bottes ?» Népomucène le briquetier, jeune homme que tout scrupule semble avoir abandonné, ressentit néanmoins, en venant s'installer à l'hôtel de la Cloche de Bois, une honte profonde à ce qu'un titre ecclésiastique aussi respectable que celui du cardinal servit de risée à tous ces jeunes fous. « Richelieu, soit, dit-il, mais pas cardinal, duc. Jetez sur la noblesse tous les tombereaux possibles de ridicule, d'accord, mais respectons le clergé, mille noms de Dieu. » Et toute la clientèle de la Cloche de Bois se rangea vite à la proposition du nouveau venu. Chapitre onzième, dans lequel Berkobzom, dans un but facile à pénétrer, transforme l'hôtel de la Cloche de Bois en une sorte de Niagara, dont l'eau serait remplacée par une chute ininterrompue d'or. Les ennemis des femmes prétendent qu'elles sont non pas immorales, mais plutôt amorales. Elles ignoreraient, d'après ces sales contenteurs de la plus belle moitié du genre humain, oui, mesdames, vous ignorez que c'est de la moralité, pour être en proie tout bêtement à vos sentiments, à vos sensations, de même, je rougis de prononcer ce mot, à vos instincts. L'instinct, après tout, appartient bien aux jolis oiseaux, plumages de couleurs vives naturelles et doués de chansons, qui n'ont nullement apprise au piano selon la méthode Carpentier. Pourquoi les femmes, si gentiment ornées de couleurs saillantes et dont la voix est un perpétuel enchantement pour les pâles oreilles des craintifs amoureux, pourquoi les femmes ne se contenteraient-elles pas d'avoir simplement l'instinct qui vient, en somme, de la nature et du ciel, plutôt que de se payer dans de gros livres une philosophie absurde qui change la vie en une drogue affreusement amère? Mais elle, Marie-Blanche, la jolie Marie-Blanche Loison, avait peut-être poussé un peu plus que loin le droit d'une femme à de ne pas posséder un intellect dans le genre de celui d'un normalien de la sélection science et philosophie. Il est bien rare, fâcheux, que le terme cité plus haut, ciboulot de faible voltage, soit à la fois vulgaire et un peu spécialement technique. Nous n'hésiterons pas à l'employer de nouveau pour qualifier la mentalité coutumière de notre gracieuse amie. Aussi ne comprit-elle absolument rien au coup d'œil profond que lui lança le javano hollandais, soit dans l'escalier quand il la rencontrait à la descente ou à la montée, soit dans le bureau de l'hôtel. Les petits saluts engageants de cet ancien négrier de l'océan Indien lui faisaient l'effet de la politesse banale qu'un homme, d'ailleurs fort laid, adresse volontiers aux femmes quand l'occasion se présente d'être respectueuse avec elles. C'était comme s'il lui avait cédé le pas pour entrer dans une salle de musée, un bureau d'omnibus, etc. Politesse courante. Du moins autrefois, il en était ainsi, avant qu'une jeunesse arriviste ne se prévalût de sa force de gymnasiarque pour bouleverser l'archaïque galanterie française. Pauvre de nous! Est-ce qu'on ose offrir sa main à une femme pour descendre de wagon? Jamais! Il n'y a plus que les étrangers pour risquer les belles et antiques manières. Et quelques vieux indigènes de la Vendée en déplacement de villégiature à Paris, ou encore quelques gentlemen de l'Anjou au moment du concours hippique. Sale, sale XXe siècle. Mais ne récriminons pas, cela ne servirait à rien. Et puis de leur côté, certaines ardentes féministes, ardentes bien entendu aux farouches revendications, ne prétendent-elles pas que ces politesses envers la faiblesse féminine, la prétendue faiblesse féminine, sont désuètes et toujours entachées de hideuses concupiscences, ce qui est très mal, affirme-t-elle, très mal. Mais le rude négrier avait à son arc d'autres cordes que sa politesse exagérée. Il connaissait quel rôle providentiel joue dans ce genre de sport l'argent monnayé et les banquenotes. Il n'hésita pas un jour, le quatrième sur les 15, à donner négligemment un billet de 50 francs au duc de Richelieu, qui était allé lui chercher un paquet de tabac de 24 centimes. Et, grand, généreux, il dit à cet humble qui lui rapportait ses 49 francs 20 centimes, « Gardez, duc de Richelieu, gardez la monnaie !» Cela se passait, vous l'avez deviné, tandis que la jolie Marie-Blanche Loison échangeait quelques propos avec la patronne de l'hôtel, et rien de ce manège séducteur ne put échapper à cette myopie particulière des femmes et même de certains hommes qui cessent, en admettant qu'elle existât préalablement, dès que l'or, sous n'importe quelle forme, leur apparaît à distance raisonnable. L'or, en effet, a dit le sage, n'est qu'une parcelle de soleil tombée sur la terre noire. Et que cet or prenne la figure bleue d'un billet de banque, la face pâle d'une thune d'argent, ou le magnifique flamboiement des louis jaunes, l'or possède la puissance du soleil pour pénétrer jusqu'à la rétine la plus rebelle et l'irradier favorablement. La voilà bien, la chrysothérapie ophtalmique, la voilà bien. Le javano hollandais s'aperçut vite de cet effet, et sans perdre un temps précieux à en tirer des conclusions oculistiques, négligea tout autre moyen désormais pour se faire valoir. L'argent ruissela dans les mains du duc de Richelieu, lequel en retour n'eut d'autre devoir que de répéter aux échos « Ce qu'il en a de la galette, le type du 17, ce qu'il en a !» Et ses propos, montant, descendant l'escalier, suivant les couloirs, s'arrêtant sur les paliers, à tous les étages, à travers le cirement des brodequins et le vernissage au pinceau des bottines, ne tombait pas dans l'oreille d'une sourde. Quand Marie-Blanche en trouvait l'écho, dans un tintinabulement de pièces d'or qui cascadait dans cet hôtel de troisième ordre, depuis qu'un soi-disant Raja javano-hollandais y avait élu domicile. Nepomucène le briquetier finit bien lui-même par l'entendre, ce bruit de métal. Et Nepomucène le briquetier ne put se défendre d'un vague frisson. Allait-il perdre son pari? Vertu française, ne serais-tu qu'un mot? Perplexité, vague à l'âme, poésie amère d'un aérostat que le vent pousse en dehors de sa route et qui risque de s'effondrer dans l'océan du désespoir au lieu d'atterrir sur la terre ferme de la difficulté vaincue. Perplexité. Chapitre 12e, dans lequel, inquiété par les propos narquois d'un certain Ferdinand Roussetière, perdant de sa belle assurance et au mépris de ce levain d'honneur qui doit se rencontrer dans toute conscience humaine, même chez les êtres les plus dégradés par l'oisiveté, le jeu, le vice et l'abus des boissons fermentées ou spiritueuses, le sieur Nepomucène le briquetier se décide, poussé par l'appât du luxe, à commettre une indélicatesse pour la répression de laquelle les tribunaux se déclaraient incompétents, mais que nous, sans hésiter, flagellons et stigmatisons des épithètes les plus sévères qui se puissent rencontrer dans les vocabulaires spéciaux. Or, il advint que le 8e jour du pari, un de nos meilleurs tapeurs parisiens, un certain Ferdinand Houssetière, se présenta à son vieil ami le briquetier avec la figure agréable d'un qui sait que ce n'est pas avec des visages de vinaigre qu'on attrape les mouches, ni même la pièce de 100 sous. Dès qu'il aperçut son vieil ami Houssetière, le briquetier jeta ses bras vers le plafond en geste de désespérance et les laissa retomber sur ses poches. Cette mimique signifiait « pâle rond ». Si vous ouvrez le dictionnaire Larousse à la lettre R et que vous trouviez l'expression « rond », pas le, vous lirez « pop », ce qui signifie « populaire », « pas le rond », « pas d'argent ». Il aurait pu ajouter ce bon Larousse « pas d'argent, pas de Suisse ». Ferdinand Houssetière ne se laissa point, comme on dit, épaté par ce geste simple. « Ben, je reviendrai, » annonça-t-il. Et là-dessus, il exécuta une fausse sortie. Mais, revenant vers le briquetier, « Voyons, insinua-t-il, tu pas gagné un pari de 25 louis ? Ça se répand, tu sais, dans tous les cabarets aérostatiques de la porte Maillot à Montmartre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Ah, fait le briquetier rêveur. « Mais oui, on ne parle que de ça. Les uns assurent que tu as gagné, les autres soutiennent le contraire. »« Bon, eh bien, je vais t'éclairer. Oh, chouette !» Et dans un geste qui est visiblement familier, Ferdinand Houssetière avance la main. « Non, non, prend le briquetier, je vais éclairer ta religion. » Et il lui conte, non sans emphase, l'aventure à laquelle nous avons récemment fait assister le lecteur. Il y a 8 jours, déjà, mais pas encore 15, j'étais allé au banquet des anciens élèves chassés des lycées de Paris, dont je suis l'estimé président. Je fus présenté à un riche Hollandais, un nommé Berkhofzoom. C'est pas son nom, mais nous l'appelons ainsi. Ce Hollandais, après boire, se livra, au sujet de la fidélité des femmes françaises, à des propos d'un cynisme sans égal et d'une insolence peu commune. Que cet étranger au poil rude pût tenir de tels propos, il n'y avait rien là de bien surprenant. Mais qu'il s'exprimât ainsi devant de jeunes Français, dont chacun avait au moins une, sinon deux maîtresses à défendre, voilà qui en vérité dépassait toutes les limites. Et je me levai d'un bond, d'un seul. Ah, c'est bien cela, dit Roustière, le visage souriant et admiratif. Bon, on avait bu, t'ai-je dit, poursuivit le briquetier, bu force vin et liqueur, et je sentais mon visage enflammé d'alcool et de colère. Je regardais le Hollandais fixement dans le jaune des yeux, et au milieu d'un silence, oh, d'un silence de mort, je lui dis d'un ton enjoué, badin, sûr de mon fait, « Vous en avez de bonnes, cher monsieur. » Mais on n'avance pas de pareilles choses sans les soutenir d'un enjeu. Vous avez un pari, voulez-vous? Vous prétendez que toutes les femmes trompent leurs amants et que vous vous chargez de souffler une femme à n'importe quel citoyen français en 48 heures. Moi, monsieur, ce n'est pas 48 heures que je vous donne. Pour triompher de Marie-Blanche Loison, ma jeune et jolie maîtresse, ce n'est pas 5 jours, pas 10 jours, mais 15 jours. Venez vous installer sous mon hôtel. Vous y trouverez les chambres très convenables, puis 3 francs. Soit dit en passant, ajoutai-je, car je sais que vous ne regardez pas à la défense. Eh bien, vous l'entendez? Je vous parie 25 louis que vous n'arriverez pas à vos fins. Et ce disant, je portai la main à ma poche, où je ne trouvais qu'un mouchoir et un porte-crayon protège-pointe. Mais, entraîné par la beauté du geste, je l'ai déposé fièrement sur la table. Oh, ce tiers s'émerveilla à ce récit. C'est égal, dit-il, il faut tout de même avoir du culot pour jouer ainsi 25 louis sur la vertu d'une femme. Le briquetier répliqua, tranchant, tu plaisantes, tu connais Marie-Blanche. Et Roustière, simplement, oh, si je la connais. Moi, je l'ai connue avant toi. Elle m'a trompé avec Guillaume de la Renforcerie d'abord. Tu blagues? Cria le briquetier stupéfié. Puis avec toi, poursuivit imperturbable et sec le vieil ami Roustière. Nepomucène essayait de s'en tirer. Oui, mais c'est au bout de 6 mois, 1 an, ce qu'on sait. Oh, nous sommes ensemble, Marie-Blanche et moi, depuis quelques jours, et de mémoire d'homme, Marie-Blanche n'a jamais trompé personne au bout de si peu de temps. D'ailleurs, je me connais en femme et je vois bien qu'elle ne m'a jamais été plus aveuglément attachée. Aveuglément, cela te plaît à dire, fit ironique le bon Ferdinand, qui perdait tout espoir de tapage. Ben, c'est une femme de tout repos, parée de toutes les grâces du corps. On dirait que la nature prévoyante ne lui a refusé les dons de l'esprit que pour qu'elle fût plus absolument belle. Roussetière insista sur ce côté de la question avec la malice rosse de l'emprunteur déçu. Sale nature, décidément, ce Roustière Ferdinand. Oui, comptait-il sournois. Oui, elle a ce qu'on appelle en termes de métier une jolie pochetée. On n'a jamais vu refuser un bateau. Elle les accepte tous avec une douceur inépuisable. Te rappelles-tu? Non, oui, non. Quand on lui a fait croire à la gare du Nord que dans les trains de luxe, les bouillottes étaient chauffées avec du pancho-kirsch. Bon, c'est vrai, réfléchit tout haut la briquetière, mais soudain pâle comme un linge. Ouais, c'est vrai que l'on a une pochetée. Mais une de ces pochetées, desquelles on peut tout attendre, mon pauvre le briquetier, même les pires catastrophes. Oh, toi, tu commences à m'embêter, au revoir. Seul, il commençait à monologuer. S'il allait perdre son pari. Mais, comme aussitôt, plus radieuse que jamais, Marie-Blanche Loison entrait, le briquetier, bannissant tout scrupule, prit la résolution peu élégante et antisportive de la mettre au courant de son pari extravagant. Il prit quelques détours qu'il crut adroits, afin de ne pas heurter les délicatesses de cette exquise jeune femme. D'autre part, son langage, en exprimant ces choses, manquait peut-être de clarté, car il sentait bien, comme cela était incorrect, de mettre dans la confidence une personne qui se trouve l'objet d'un pari dans ces conditions. Seulement, il se rappela qu'on n'avait pas parlé d'une telle clause. Dès lors, sa conscience demeura tranquille. Ajoutons que, même autrement, il eût éprouvé la même quiétude. Voici exactement, pour le meilleur profit des historiographes futurs, la phrase lapidaire dont s'était servi Nepomucène le briquetier pour informer Marie-Blanche Loison de cette affaire considérable. « Écoute bien, Marie-Blanche Loison, ma douce maîtresse, j'ai parié 25 louis que tu ne me tromperais pas dans les 15 jours avec ce Hollandais. Il y en a 10 aujourd'hui.
10 quoi, mon chéri?
10 jours. Surtout, chéri, indépendamment de l'affection que tu me portes. Songe à ces 25 louis.
25 louis? Mais c'est une somme, mon chéri. Faudra-t-il te faire gagner ces 25 louis?
Le briquetier répondit « Je t'écoute !» Marie-Blanche demeura longtemps songeuse, comme une personne qui cherche à résoudre un problème que lui aurait posé M. Poincaré, le mathématicien. À ses sourcils froncés, on saisissait qu'une immense contention d'esprit la torturait. Enfin, elle exhala ces mots.
« Compris, compris, mon chéri, tu les auras, tes 25 louis. »
Et ce soir-là, ils ne dissétèrent pas plus avant, comme a dit à peu près Dante Alighieri en parlant d'amoureux célèbres, par leur beauté et leur malheureux sort dans l'enfer, cet enfer si connu sous le nom de l'enfer du Dante. Chapitre XIIIe, dans lequel il ne se passe rien d'extraordinairement sensationnel, pas plus au point de vue de la marge des événements qu'au sujet de l'état d'âme des personnages, mais que l'auteur a cru néanmoins devoir publier en vertu de cette considération qu'étant rémunéré à tant la ligne, ce serait un acte de pure folie de sa part, après avoir écrit plusieurs pages, même vides d'intérêt, de les utiliser à allumer son feu, son modeste feu de coq. Les jours passèrent, silencieux et calmes, à la cloche de bois. Berckhoff-Zoom éparpillait son argent. Le duc de Richelieu, gorgé d'or hollandais, offrait au cocher d'innombrables petits verres chez les marchands de vin des environs et s'achetait des cravates en soie vert pomme, nuance pour laquelle il avait toujours nourri le goût le plus vif. Telle Jeanne d'Arc entendant des voix, Marie-Blanche Loison prenait des airs concentrés. Le briquetier n'avait plus jamais reparlé du pari. Confiant, il s'apprêtait simplement à encaisser la belle somme de 25 louis due à la vertu française enfin récompensée. Enfin, la date suprême, le 15e jour, est arrivée. Nepomucène, seul dans sa chambre, assis en face d'un journal d'aérostation, dont, avec la plus grande attention, il ne lit pas une ligne, oh, avec quelle attention extrêmement tendue parfois, on ne lit pas ce qu'on a l'air de lire, gens perplexes, vous le savez.
Soudain, la pendule sonne 8 coups qu'il compte sur ses doigts. 2 heures et demie, dit-il, sans manifester d'autre étonnement. Si Nepomucène le briquetier ne manifeste aucun étonnement, j'admets sans conteste qu'il puisse en aller autrement du côté de nos lecteurs. L'explication s'impose d'un fait en apparence anormal, mais on le reconnaîtra tout à l'honneur de ce jeune homme. La pendule de Nepomucène le briquetier avançait de 5 heures et demie. C'est, remarque-t-on, beaucoup trop. Souvenir, touchant souvenir de l'ancien locataire de la chambre, jeune étudiant hindou que torturait le mal du pays et qui voulait que sa pendule marqua l'heure du méridien de Chandernagore. Cette exquise pensée avait à le briquetier paru empreinte d'une telle poésie qu'il défendait au duc de Richelieu de donner, en la réglant sur Paris, à cette pendule une autre heure que celle du nostalgique enfant de l'Indus. « C'est très agréable, dit-il un jour à son ami Guillaume de la Renforcerie, et ça me réapprend à compter sur mes doigts, tout comme si j'étais poète, tel toi, et que je dusse aligner des vers alexandrins. » Il se leva, comme le font les héros de drame, quand il doit monologuer. Ainsi aujourd'hui, à 4 heures précises, sur 9 heures et demie à ma pendule indo-européenne, ma situation pécuniaire va changer du tout au tout. Mon passif ne diminue jamais, mais mon actif va s'augmenter de 25 louis, qui ne devront rien à personne, ça revient au même. Avec ce que je détiens, je posséderai 125 000 francs et quelques décimes. Oh, je me sens de très bonne humeur. C'est curieux comme l'argent aide à supporter la pauvreté. Ces 25 louis me tombent absolument du ciel, aérostatiquement. Je ne suis pas de ceux qui s'imaginent qu'ils n'ont qu'à ouvrir la bouche pour que les alouettes y tombent toutes rôties. Non, mais tout de même, j'ouvre la bouche de temps en temps. Le ciel peut d'ailleurs m'aider un peu, car je m'aide autant que je puis. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il grêle, je joue 10 heures par jour à la manille. Il y avait tant de mortes saisons dans l'aérostation à cause des vents contraires. C'est ainsi, par le jeu, que j'assure médiocrement ma subsistance, ainsi que celle de ma bonne amie. Charmante histoire que celle de ces 25 louis. Tiens, Guillaume, bonjour, cher ami. Guillaume de la Renforcerie venait en effet d'entrer, le visage rougi par les veilles en des endroits enfumés. « Bonjour, fait-il. » Et son œil fureteur cherche Marie-Blanche Loison. Même Marie-Blanche Loison est absente. Gorgée de confiance dans l'issue du pari, riche en expectatives, Nepomucène le briquetier se met déjà en garde contre un possible tapage. « Bon, Guillaume, dit-il, écoute-moi bien. Tu viens pas ici dans l'intention de m'emprunter de l'argent. Tu n'es pas tenaillé par un besoin pressant. Non, pas précisément à 7 minutes, pourquoi ? » Alors le briquetier goguenard. Mais il est donc parfaitement établi que tu n'as pas perdu cette nuit une somme importante et tu songes pas du tout à te brûler la cervelle. Mais où veux-tu en venir ? Clama Guillaume. « Eh bien, je puis donc te parler librement. Sache, mon vieux la Franforcerie, que je l'ai gagné, ce pari, ce fameux pari de 25 louis. Là, tout à l'heure, tu vas l'avoir saboulé, la belle galette. Mais ton argent, cher ami, fait Guillaume, très digne, garde-le. Gagner de la sorte, il me fait horreur. Non, non, je viens en simple témoin, avec un cœur ulcéré, constater ton triomphe ou ta défaite. Ma défaite, ah, tu as dit ma défaite. Mais sache que s'il y a quelqu'un qui touche, des chances sérieuses veulent que ce soit moi. Je suis tellement sûr, vois-tu, de mon fait, que j'ai même pas prévu l'éventualité de la perte, et que j'ai même négligé de passer au Crédit Lyonnais pour voir s'il y a encore quelque chose à mon compte. Ainsi, dit Guillaume d'une voix creuse, tu es sûr de Marie-Blanche? Elle a trompé pourtant Roustière avec moi, et moi avec toi. Oui, mais il y a mille temps, et puis Roustière et toi, êtes-vous français ou non? Tandis que Berghofsohm, c'est un étranger. D'ailleurs, j'aime mieux te l'avouer, je l'ai mise au courant de la situation. Oh, es-tu certain qu'elle ait bien compris? Insinua Guillaume, d'une façon perfidement sournoise, en amant jaloux et pas consolé. Oh, tu cherches à m'inquiéter. Et où est-elle en ce moment? Au musée du Louvre, m'a-t-elle dit. C'est un lieu calme, surtout dans les salles où il n'y a personne. Et elles sont nombreuses, tu sais. Néanmoins, malgré son calme, je trépide. Oh, cette pendule marche avec une lenteur désespérante. Mais il est 8h30. Oui, ça fait 3 heures au méridien de Paris. C'est juste. Et si pour nous distraire, nous descendions à l'estaminet de l'hôtel faire une manie à deux? Mais parfaitement, il faut bercer sur l'aile du hasard les inquiétudes de l'attente. Les inquiétudes, ah ah, reconnais que tu trembles. Bon, je tremble sans trembler, sait-on jamais. Qui l'osa? Qui en savait? Et le Berghofsohm? Robert Richelieu vient de me dire qu'il est dans sa chambre. Allez, descendons, je veux voir en bas le résultat des courses. La première de Saint-Ouen doit être affichée. Ah, tu as joué? Non, mais un cheval que j'aurais voulu jouer. Ça m'embêterait s'il avait gagné. Étrange façon de s'arrêter aux courses. Oh, la seule dans tous les cas, insuffisante à se faire effondrer le moindre patrimoine. Ils descendirent et s'installèrent dans le petit estaminet attenant à l'hôtel de la cloche de bois. La manie à deux est un jeu assez difficile. Le développement de sa théorie nous entraînerait à 10 pages au bas mot d'explication. Nous préférons renvoyer le lecteur à l'excellent traité écrit sur ce sujet en collaboration par les deux spécialistes bien connus, M. Anatole et Paul Leroy-Beaulieu. Pendant que nos amis mettent la toux, tantôt à carreau, tantôt à pic, demande 40, 41, 42. Bon, à toi, mais tu les feras pas. Pourquoi cela? Avec le jeu que j'ai, tu ne peux pas faire 42. Il est vrai que le proverbe heureux en amour, ironiste. Pendant 10 jeux que nos amis se livrent aux douceurs de la manie à deux, que se déroule-t-il ailleurs? Oui, que se déroule-t-il ailleurs? Ailleurs, il se déroule du joli. Prenez donc plutôt la peine, mesdames et messieurs, de vouloir bien passer au chapitre suivant, et vous serez édifiés. Chapitre 14e, dans lequel, et d'avance, le rouge en monte au front de l'auteur, une charmante jeune femme qui, sans détenir dans le domaine de l'art dramatique une situation comparable à celle de Sarah Bernhardt ou de Réjeanne, n'en est pas moins une petite comédienne sur laquelle, au cas où elle se mettrait à sérieusement travailler sous la direction d'un professeur habile et consciencieux, on pourrait fonder certaines espérances dans les rôles qui n'exigent point de l'interprète une vive intelligence, s'en voit réduite à prodiguer, et cela par suite d'un simple malentendu, ses suprêmes caresses à un Hollandais, pour lequel la pauvre enfant éprouverait plutôt de l'aversion. Un jour, notre excellent et regretté confrère Charles Chincholle, rendant compte dans le Figaro, de je ne sais quel scandale oscar-wildien, interrompit brusquement son article par cette phrase dont le souvenir après tant d'années m'est aussi fidèle qu'au jour où je la lus pour la première fois. Mais je suis forcé de m'arrêter, car ma plume se cabre dans ma main au récit de telle turpitude. Je prie les lecteurs de vouloir bien m'excuser. Eh bien, tel que vous me voyez aujourd'hui, je suis dans l'exactement même situation qu'à l'époque notre vieux Chinchol. Je n'avais pas plutôt tracé sur le papier blanc l'intitulé de ce chapitre que je sentis dans les doigts d'abord, puis dans la main jusqu'au poignet, ensuite dans l'avant-bras et enfin se prolongeant jusqu'au deltoïde, comme de petites secousses suivies d'un engourdissement des plus pénibles. Mais moi, au travail, je suis un type dans l'ordre de Sénèque qui disait à tout bout de champ « Ô douleur, tu n'es qu'un mot !» J'appelais donc à moi toute mon énergie afin de poursuivre ma tâche. Vains efforts ! En examinant de plus près ce curieux manège, quelle ne fut pas ma stupeur de constater que, littéralement, non pas ma plume, ainsi que l'observa trop superficiellement Chinchol, mais mon porte-plume se cabrait dans ma main. Se cabrait, oui, il n'y a pas d'autre expression. Et je compris. Mais voyez-vous d'ici mon embarras et ma vexation. Moi qui comptais si bien vous décocher une de ces pages croustillantes qui suffisent à faire monter la vente d'un volume de 30 ou 40 000 exemplaires. C'était bien ma veine. Alors que faire? Qu'auriez-vous, vous qui souriez, fait à ma place? Oh, j'entends une voix dans l'assistance. J'aurais chargé de porte-plume. Telle est bien la manœuvre que je m'empressais d'exécuter. Peine perdue. Mon deuxième porte-plume, lequel je choisis en liège, ne fut pas long à me prouver que sa légèreté matérielle n'avait en rien d'éteint sur son moral. De même en alla-t-il avec un porte-plume en fer. Une idée, si j'essayais du crayon. Ah ben wish ! Plutôt que d'écrire les caractères que je lui imposais, la mine se brisa net, avec un petit bruit sec qui en disait plus long que les plus longs discours de l'honorable sénateur Béranger. Les touches d'un robuste dactylographe, à grands frais amenés de la ville voisine, me mirent au bout des doigts de telle brûlure que j'emporte encore les marques. Découragé, démoralisé, anéanti, je remis au lendemain la suite de mon travail. Et voici comment, mesdames et messieurs, j'éprouve le vif regret de n'avoir pas pu développer la matière correspondante à l'intitulé du présent chapitre. Je prie, comme disait Chinchol dans les mêmes circonstances, les lecteurs de bien vouloir m'excuser. Chapitre 15e, dans lequel, si le lecteur veut bien tendre l'oreille, il percevra le résigné gazouillis solitaire de cette petite oiselette rose et blanche qu'est notre jeune et candide amie Marie-Blanche, la bien nommée, pâle victime du milieu cynique et débauché dans lequel les hasards de la vie, aidés par les mauvais traitements de ses parents, la mère une pas grand-chose, le père, ancien préfet de l'ordre moral, tombé dans la plus crapuleuse fange, l'ont amené, provisoirement, osons l'espérer, pauvre petite. Marie-Blanche Loison semble fort étonnée de ne pas trouver, l'attendant dans leur petit appartement, son ami Nepomucène le briquetier. Où peut-il bien être, mon pauvre chéri ? Se dit-elle avec plus de ferveur que jamais. Et pendant qu'elle rend à sa blonde chevelure une ordonnance correcte, « 3 heures passées, monologue-t-elle, Encore 1 heure et le pari était perdu. Faut-il que je l'aime assez, mon époux, pour avoir fait cela? Ben, quand il m'a parlé de ça, il y a quelques jours, je n'ai vu qu'une chose, c'est qu'il fallait connaître, hélas, connaître ce Hollandais pour faire gagner 25 louis à mon beau chéri, à mon époux. Oh, j'étais bien décidé, mais j'ai retardé jusqu'au dernier moment. Je suis donc allé le trouver, ce Hollandais affreux que je déteste. J'avais rencontré tant de fois dans l'escalier, ce qu'il m'en faisait, des agaceries de toutes sortes. Mais l'imbécile, je ne lui avais jamais répondu. Et comme il faisait sonner sa galette. Ah, ah oui, le duc de Richelieu ne parlait que de ça. Mais j'avais pas bronché. C'est que j'aime mon petit Nepo, mon petit Bébéric. Et pourtant, quand j'ai ouvert sa porte à ce Hollandais, quand je suis allé à lui et que je lui ai dit avec résignation, je suis à vous, jamais je n'ai vu un type aussi épaté, si troublé. Si troublé qu'à un moment j'étais inquiète. Aurait-il le temps de se remettre avant 4 heures, me demandai-je. Enfin, il a repris son aplomb, et me voici. Oh, ça a été un moment un peu ennuyeux, mais comme mon époux va être content. Dame, écoutez donc, 25 louis, ça fait 500 francs, après tout.
Chapitre 16e, dans lequel l'action commence à se corser. Oh, cela n'est pas trop tôt. Pour la plus grande confusion du sieur Nepomucène le briquetier, qui voit s'abattre sur lui la double catastrophe, sentimentale d'une part, et ce qui le touche au plus vif, pécuniaire, sans parler de l'amour-propre, si tant est qu'on puisse accoupler ces deux mots quand il est question d'un aussi répugnant personnage. Dans le corridor, un pas résonne, un pas fier, un pas d'ancien aéronaute.
« Le voici !» dit Marie-Blanche Loison, languissante, amoureuse, douce Iphigénie.
Nepomucène, le briquetier, se précipita, inquiet, fiévreux.
« Oh, me voici, belle chérie, eh bien !»« Mon chéri,
quoi, que tu as à me dire ?»«
Nepo !» dit Marie-Blanche avec gravité. « Nepo, tu as gagné !»
Le briquetier regarde l'heure.
« Mais non, pas encore, belle chérie, m'indigne-t-il, pas encore. Il n'est que la demi. Mon pari ne sera gagné que dans 1 demi-heure, à 4 heures juste. » Mais l'inconsciente enfant, ô infante de Velasquez, avec de délicieuses collerettes de dentelle, pourquoi pensais-je à vous en ce moment? L'inconsciente enfant proclame de sa menue bouche de bébé en sucre.
Mais crois-tu que j'allais attendre la dernière minute?
Nepo, tu as gagné! Nepo, tu as gagné! Je te dis que tu as gagné!
Mais gagné, fait Nepomucène, dont les yeux commencent à papilloter d'inquiétude. Mais j'ai gagné, dis-tu!
Eh oui! Mais je t'assure que j'ai passé là un moment bien pénible.
Un moment, dis-tu, bien pénible? Oh, il y a Nepomucène le briquetier le sang de la catastrophe dans l'air.
Mais basta, n'y songeons plus. C'est brou, Marie-Blanche. Tu les as gagnés, tes 500 francs. Tu les as gagnés, c'est le principal.
Mais tu crois, fait le briquetier, dont une pâleur affreuse envahit le visage.
« Ah, faut-il que je t'aime ? » clame-t-elle, imitant à s'y méprendre et sans s'en douter la voix de Madame Marguerite Moreno de la Comédie française.
Abruti, sidéré, médusé, anesthésié, Nepomucène le briquetier regarde longuement avec une inquiétude solennelle, Marie-Blanche Loison.
Puis, de sa gorge subitement empressée, il put tirer quelques sons possibles, vaguement humains. Explique-toi, explique-toi, il y a dans tes paroles un peu de confusion. Et, simple comme la toute petite agnolette blanche et rose que la brebis vient de mettre au monde sous le ciel bleu, ben c'est, balbutie-t-elle pourtant bien simple, mon petit Nepo. Je détestais ce Hollandais. Oh, il m'en coûtait, je t'assure, beaucoup de te tromper. Mais, puisque ça te rapportait 25 louis, j'ai pris bravement mon parti. Achève. Ben oui, il n'y avait plus qu'une heure et demie. Alors je suis allé trouver ce monsieur, et je lui ai dit, en fermant les yeux, « Je suis à vous. » Et, ben, d'abord, il a paru très épaté. Oh, j'avais jamais vu un type aussi épaté. Oh, il y avait de quoi, et ensuite? Ben, ensuite, il m'a prise au mot. Voilà. Nepomucène, le briquetier, hoche machinalement la tête, comme un homme pris de vertige. Puis il regarde Marie-Blanche avec un air d'inénarrable effroi. Il tombe, atterré, sur un fauteuil, le front dans ses mains. Il garde un silence bien compréhensible en l'occurrence, et recommandé aux personnes de forte complexion, rapport à l'apoplexie, comme dit le peuple. Enfin, il relève la tête, une belle tête de foudroyé. Calme, terriblement calme, comme dit Georges Honnet, baignant dans une vague torpeur de tout son être, Ipsal me dit « Les plus grandes profondeurs de l'océan Atlantique sont de 7200 mètres environ. Elles ont été construites dans le golfe du Mexique. Le Pacifique a donné lieu à des sondages plus intéressants encore. 8600 mètres dans la fosse dite de Tuscarora. On a donné ce nom à cette partie du Pacifique parce que le navire anglais chargé des sondages s'appelait Tuscarora. Légère interruption pendant laquelle Nepomucène le briquetier contemple son ami comme s'il la rencontrait pour la première fois. Puis... « Eh bien, éclate-t-il, les sondeurs du Tuscarora ou Marie-Blanche Loison, ces sondeurs qui doivent être d'habiles sondeurs, pourtant peuvent tous, oh, tous, être mis dans la présence de la frêle âme que voici. Oh, ils pourront jusqu'au bout déployer leur plus grande sonde, leur plus interminable sonde. » Il se lève en proie à quelque frénésie psychoscientifique et véhément. Ils se pencheront sur le bastingage, ces sondeurs du Tuscarora, pour aller plus profondément. On leur permettra de s'accrocher par les pieds, de entendre par les pieds au bord du navire, et de tenir la corde au bout de leurs doigts. Ah, mais croyez-vous qu'ils atteignent le fond de cette âme mignonne? De cette démesurée candeur. Et pendant tout ce discours, le joli visage de Marie-Blanche a passé par toutes les nuances de l'arc-en-ciel, même par l'ultraviolet. Et avec un infernal sourire de triomphe, le briquetier poursuit. Ils y coupent, les sondeurs de Tuscarora. Puis, avec un emportement presque lyrique, brutal cette fois et tonitruant. Vous y coupez, messieurs du Tuscarora. Là-dessus, il trépigne, exulte, se livre à mille manifestations de la plus inquiétante frénésie, pousse des cris épouvantables devant Marie-Blanche, muette de terreur. Mais voilà qu'il se calme un peu, et qu'à cet instinctif enfant de la nature, à cette pauvrette dénuée du sens des longues diplomaties qu'illustrèrent Talleyrand, il adresse un doux regard. Oh, il n'y a pas dans la langue française, reprit-il, ni dans aucune autre langue européenne, de mots suffisants pour caractériser ton cas. Sais-tu à quoi j'en suis réduit? Mais j'en suis réduit aux rudes onomatopées, comme nos ancêtres des cavernes. Puis, violemment, farouchement, hors de toute borne. « Mais tu es, dit-il, la dernière des une de bas étage, et pour me résumer, une hi-hi-hi. » L'index posé sur le temple, la tempe, Nepomucène, le briquetier, réfléchit un instant, et se répondant à lui-même, « Oui, une hi-hi-hi, c'est le mot. » Marie-Blanche ne comprend rien, sinon que Nepo, son cher Nepo, est en proie à quelque violence dont elle ne perçoit pas la cause. Peut-être, se dit-elle avec un effroi légitime, est-il devenu subitement fou? Pauvre petite âme enfantine! Mais mon ami, si j'avais su que tu serais si furieux, j'ai cru bien faire. Elle dit « oui » comme un écho, sans savoir la valeur ethnologique de ces mots qui, pour le briquetier, rappellent l'âge sombre des cavernes. Ah, l'âge sombre des cavernes, nous possédons tous, plus ou moins, une goutte de sang dans nos veines. L'exaltation de Nepomucène semble entrer dans la voie de l'accalmie. Il porte une voix douce, et caressant les joues de l'innocente infante, « Non, dit-il, non, non, ne dis rien davantage, ne parle plus, Blanche, je t'en supplie. » Puis il s'éloigna d'elle, et montrant son front à lui, son front d'homme moderne, tout plein encore de ses récentes spéculations aéronautiques, et grouillant déjà de projets dramaturgiques, il gémit d'une voix attardée dans la plainte, comme celle d'un pâle convalescent. Ceci, oui, ceci est un crâne humain, où il y a de la cervelle humaine. Oh, ça n'a pas une résistance sans limite, un crâne humain. Il pousse un vaste soupir. Puis il attire l'adorable Marie-Blanche, tout contre lui, et d'une voix familière, presque enjouée, au pitié, soupir. Alors, tu ne sais pas ce que c'est qu'un pari? Mais si, mon chéri. On ne s'en douterait guère. Mais pourtant, tu m'as dit. Et Nepomucène grave. Mais je t'ai dit que si tu n'allais pas voir le Hollandais maudit, je gagnais 25 louis. Et si tu allais le voir, je perdais les 25 louis. Je perds donc 25 louis, puisque... Oh non, tu blagues! Mais le briquetier, toujours indulgent et grave. Mais tout à l'heure, au lieu que ce soit moi, ou si tu préfères, au lieu que ce soit moi, qui touche 500 francs, mais ce sera moi! Moi, Nepomucène le briquetier, qui serait obligé de les lui verser. Marie-Blanche n'en revient pas. Mais tu seras obligé, suffoque-t-elle. Oui, mais c'est ce qu'on appelle une dette d'honneur. Sais-tu ce que c'est qu'une dette d'honneur, le sais-tu? Marie-Blanche, bien femme, s'effondre tumultueusement. Oh, mon chéri, mais tout ce que j'en sais, c'est que je suis horriblement malheureuse, va... Oh oui, bien malheureuse! Au lieu de l'attendrir, cette explosion de douleur ne fait qu'exciter l'ironie furieuse de Nepomucène. Oh, tu as bien tort, fait-il avec des yeux torves, mais calme relativement. Regarde si je me fais de la bile, tonnerre de tonnerre! Puis regardant la pendule, il clame avec l'accent bien connu du jaguar altéré. « Tonnerre de tonnerre, mais il est 9 heures à Chandernagor. Dans une demi-heure, il va s'amener ici et me dira d'une voix calme, « Vous avez perdu. » Ah, cela par exemple, non. Jamais Marie-Blanche ne consentira à l'admettre. Oh, ce serait trop fort. Mais qu'est-ce que tu dis là? Il va venir ici, ce Hollandais, et te raconter que tu as perdu. Mais oui, c'est dans la convention. De plus en plus butée et récalcitrante, Marie-Blanche hoche sa tête charmante. Et il dira ça, dis-tu? Il dirait ça? Il voudrait te dire à toi que j'ai... Oh non, non, il ne te le dira pas. Et elle ajoute avec un grand geste, puis t'envier, mademoiselle Adeline Duclay. Il fera pas cela, car il y a des gentilshommes en Hollande. Mais il le fera, te dis-je, puisque c'est un pari. L'heure sonne des grandes résolutions. Marie-Blanche sait ce qu'il lui reste à faire. Non, non, il ne faut pas qu'il le dise. Ah oui, j'ai fait une gaffe, eh bien, je te dois de la réparer. Je vais aller le trouver, ce Hollandais de malheur. C'est un gentil homme, je ne sais pas ce que veut dire Berkopzom, mais sûrement c'est un nom noble. Cette assurance, si flatteuse pour la vieille aristocratie hollandaise, ne semble point partagée par Nepomucène le briquetier. Mais en cette heure critique, serait-on rien démêlé au fumeux état d'âme de notre ami? Marie-Blanche Loison a posé sur sa tête d'enfant blonde son chapeau bleu pâle, qu'elle fixe à l'aide d'une longue épingle, et elle enfonça cette longue épingle avec l'ardeur qu'une autre apporte à poignarder sa rivale. Et par l'azur de ses grands yeux candides, s'alluma la sombre étincelle des volontés que rien ne saurait abattre ni même fléchir. « Toi, Nepo, ajoute-t-elle, comme de juste, tu feras le monsieur qui ne sait rien, et comme cela, c'est toi qui auras gagné le pari. » Ce n'était pas, en effet, ô candeur, plus difficile que cela. « Oh, Marie-Blanche Loison, tu n'accompliras pas cet acte. Tu ne feras pas cet acte antisportif. »« Non, mais des fois, je vais mettre des gants peut-être et me gêner. Penses-tu ?» En disant ces mots, Marie-Blanche Loison, précisément, enfile une paire de gants, manifestation nouvelle de l'éternel conflit entre le symbole et la réalité. Marie-Blanche Loison, je t'ai écouté patiemment. J'ai voulu voir si tu irais jusqu'au bout. À force d'énergie et d'empire sur moi-même, j'ai réussi à faire taire en moi ce vieux fond d'incoercible horreur qui ont déposé, par hérédité, plusieurs siècles de sévère éducation. Eh bien, il s'est passé quelque chose d'assez curieux avec ce vieux fond d'incoercible honneur. Il s'est tu étrangement. L'aurais-je définitivement étouffé? Par les époques troublées que nous traversons, la chose est possible. Il réfléchit une minute. Probable même. À tout à l'heure, Nepo. Mais tu ne m'embrasses pas, Marie-Blanche? Non, non, pas avant de m'être réhabilité. Va, va, créature de tristesse. Va-t'en à ta tâche de dévouement silencieux. La créature de tristesse dégringolait déjà l'escalier, légère comme l'oiselle, sûre de son charme tout-puissant, irrésistible, victorieux. Chapitre 17e, dans lequel, si la vertu n'est pas récompensée, aucun châtiment ne vient frapper le vice. Contrairement à l'usage entretenu par certains moralistes, qui ne sont au fond que de louches hypocrites dans la vie privée, desquelles la moindre incursion vous ferait reculer d'horreur. Un vieux dicton met en garde contre les périls qui vous guettent si vous jouez avec le feu. Un autre vous prémunit du danger résultant du badinage et de l'amour. Et tant d'autres proverbes, frappés au coin de la sagesse et l'expérience, et qui, hélas, ne servent à rien, tant les jeunes gens apportent d'incurie
et de présomption à la marche de leur existence sentimentale. Tel est le cas, sans aller plus loin, de notre vieux camarade le négrier, point d'interrogation, javanais, point d'interrogation, Bercobzom. À cette heure, Bercobzom idolâtrait passionnément Marie-Blanche Loison. Comment s'était produit ce phénomène? L'explication nous en apparaît les plus simples. Veuillez plutôt, frivole lectrice, et vous aussi, lecteur superficiel, faisant violence à votre coutumière folâtrerie, tendre un peu votre attention mal exercée. De l'état d'amoureux, d'amoureux sincère, se dégage tout naturellement, inconsciemment, un curieux manège, parfois fort ridicule, mais auquel, à moins d'être la dernière des gourdes, la personne objet de cette passion ne se trompe pas. Oh, je n'insisterai pas, car il commence à se faire tard, sur les détails de ce manège, maintes fois décrit par les romanciers psychologues et autres rigolos. En des genres différents, Paul Bourget et Paul de Kock ont excellé dans cette sorte de peinture. Touchantes alors qu'elles partent du cœur, ces simagrées sont purement odieuses lorsqu'elles ne sont que le fait du lâche séducteur, du simple fantaisiste, dont le mobile souvent s'appelle vanité, plus souvent encore hélas, sensualité, bellâtre qui sur son coup pénétré pirouette gaiement sur ses talons, se retire une plume à son chapeau, fredonnant quelque ariette en vogue. Chaque fois que l'occasion s'en présentera, nous n'hésiterons pas à flageller de tels errements, comme dit si bien M. Paul Leroy-Beaulieu. Mais que dire d'un cas, tel celui qui nous occupe, où la vanité ou la sensualité, motif après tout humain, ne sont même pas en jeu. Une circonstance dans laquelle il ne s'agit que d'un misérable pari, une gageure, pour dire le vrai mot. La nature, qui possède cela de commun avec la Providence, jouit d'une peu commune impénétrabilité de dessein. Sous des dehors un peu tout loufoque, la nature sait ce qu'elle fait, d'où elle vient, où elle va. Elle va à sa morale à elle, morale assez différente de celle de ce vieux bandit de Saint-Vincent de Paul, morale dans laquelle l'individu se trouve impitoyablement sacrifié pour le plus grand profit de l'espèce. Comme toutes les morales, celle de la nature s'accompagne de diverses sanctions, dont la plus employée est ce que nous appellerons la mort sans phrase. Quand un animal, pour une raison ou pour une autre, gêne les desseins de la nature, oh, je vous prie de croire que cela ne traîne pas. Le pauvre être a bientôt fait d'être bouloté, comme dit M. Alphonse Maynard-Edwards, pas plus fort que lui. Capricieuse, comme c'est le droit d'une aussi jolie personne, des fois, la nature s'amuse à faire des blagues à qui essaye de contrecarrer sa norme. C'est ainsi qu'elle ressent le plus vif plaisir à ce que les faux amoureux, les inanes séducteurs, les secs godelureaux, se laissent pendre le cœur dans l'engrenage, j'ose m'exprimer ainsi, de leurs propres embûches. La vieille sagesse des nations a fort bien noté ce fait au moyen de plusieurs formules, dont deux citées plus haut. Il ne faut pas jouer avec le feu, on ne badine pas avec l'amour. Nous autres savants, nous appelons cela un phénomène de réversibilité. L'amour détermine certaines manifestations extérieures. Des manifestations extérieures identiques engendrent l'amour. C'est drôle, mais c'est ainsi. Ce phénomène de réversibilité
plus répandue qu'on ne croit dans le monde sentimental, n'en est plus à compter ses applications sur le tapis de la mécanique industrielle. Ainsi, pour ne parler que de certains dispositifs employés dans les voitures automobiles. Ben, je crois que nous embardons, ne vous semble-t-il pas? Revenons donc à ce que nous appellerions, par euphémisme, un mouton. Bergobsohm, donc, s'était pris à ses propres lacs. À force de jouer avec le feu, voilà qu'il flambait. Aussi, quand Marie-Blanche Loison, pénétrant dans sa chambre, lui avait dit d'une pâle voix de victime résignée: « Me voici, je suis à vous. Pour un néerlandais estomaqué, on peut dire que ce fut un néerlandais estomaqué. » Il s'attendait si peu à ce dénouement. Qu'auriez-vous fait à sa place? Alors, ne posez pas la délicatesse. Vous n'auriez pas agi autrement que lui, et fichtre, ce n'est pas moi qui vous en blâmerais. Quand une jeune personne de la valeur physique de Marie-Blanche Loison entre dans votre chambre, en proie à de si bonnes dispositions, les plus nobles sentiments se taisent d'eux-mêmes, quitte à pousser bien l'âpre vocifération du remords, mais pour l'instant, ils se taisent. Il faut aussi bien se taire. Qui les écouterait? Chapitre 18e. Où se produit un changement à vue auquel, je parie 20 contre 1, les plus astucieux de nos lecteurs ne s'attendaient guère, et qui justifie le titre, jusqu'à présent assez énigmatique, de ce charmant petit roman. Usant plus haut d'une expression triviale, nous disions, pour un néerlandais estomaqué, Bergsohm fit un néerlandais estomaqué. Voyant entrer chez lui Marie-Blanche Loison, si étrangement consentante. Mais comment dépeindre la stupeur du même personnage, encore tout en paradisé, croyant à quelque hallucination, quand sa porte s'ouvrait brusquement? Bergobsohm, vous êtes un gentilhomme, dit Marie-Blanche Loison, d'une voix forte qui ne lui connaissait pas. D'abord, Bergobsohm quitte le divan où il jonchait la torpeur de ses récentes délices. « Un gentilhomme, chercha-t-il à comprendre. Mais sans doute, j'ai la prétention d'être un gentilhomme dans toute la force du terme. » Alors, savez-vous, en pareil cas, comment se comportent les gentilshommes de nos contrées? Moi, je ne sais pas, Marie-Blanche, mais si la chose vous intéresse, je ferai comme eux. J'ai toujours pris la humeur des peuplades où m'a conduit la destinée. Mais la France n'est pas une peuplade, Bergobsohm. Mais en qualité d'étranger, je vous pardonne cette injure. Eh bien, Bergobsohm, en pareil cas, un gentilhomme français éviterait soigneusement de se vanter. Mais c'est bien ce que je voudrais faire, Marie-Blanche Loison. Et pour sauver l'honneur d'une femme, le gentilhomme français n'hésite pas à sacrifier un malheureux billet de 25 louis. Et même de 50, Marie-Blanche, 25 que je ne gagne pas, plus 25 que je perds, mais basta, je ne regrette pas. Et il ajoute, sur un ton de la passion contenue, au contraire, Marie-Blanche Loison, au contraire. Vous êtes tout de même un chic type, ne put s'empêcher Marie-Blanche d'éclater. Oui, un chic type, et j'en connais des tas qui n'auraient pas fait comme vous. L'espace nous est, hélas, trop mesuré pour que nous puissions nous livrer à la moindre psychologie, et cela est fort regrettable. Nous aurions, si le cœur nous en eût dit, étudier les causes de la passion spontanée et, si j'ose dire, éruptive, qui jetait Marie-Blanche Loison dans les bras de Berckowzoom. Peut-être les causes sont-elles moins compliquées que nous, nous amuserions à les développer. Berckowzoom était un chic type tout de même. En faut-il davantage? Et peut-on refuser, car nous abrégeons, à un aussi chic type de filer avec lui vers cette merveilleuse île de Java, si bien faite pour l'amour et dont il lui montrait un grand nombre de photographies représentant les indigènes et quelques-uns des sites les plus pittoresques. Et puis, elle en avait assez de Montmartre, Montmartre la purée. C'est bon quand on est môme, ces trucs-là. Et le soir même, il prenait le rapide de Marseille, qui part de Paris à 9h15, et vous met à Dijon dans la nuit à 1h51, car c'est bien loin, Marseille, pour s'y rendre d'une seule traite. Dernier chapitre 19e, dans lequel l'auteur n'est pas fâché d'en finir avec toutes ces histoires à dormir debout. Pam, 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 entrez! Oh, c'est vous, mon cher duc. Moi-même, monsieur le briquetier, qu'y a-t-il pour votre service? Bien, il y a pour mon service que monsieur Berckowzoom m'a chargé de vous remettre cette enveloppe. L'enveloppe, on le devine, recelait l'enjeu stipulé. Raoul le Bicretier ouvrit alors le tiroir de sa table de nuit, en sortit un revolver qu'il mania fébrilement. « Mais mon cher Itelieu, vous voyez cette arme ?»«
Oui, je la vois. »«
Eh bien quoi ?»« Eh bien, je l'aurais fait comme je le dis. » La brusque disparition simultanée de Berckowzoom et de Marie-Blanche Loison sert encore de thème dans l'hôtel de la cloche de bois à 1000 hypothèses plus saugrenues les unes que les autres. Raoul le Bricotier tint à dépenser lui-même en toutes sortes de plaisirs personnels ses 25 louis, un restant de pudeur l'empêchait de faire profiter ses meilleurs amis d'un or dont la source était si peu cristalline.